Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement. Et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre, Bruno Donnet pour ses télescopages. Il est déjà dans ce studio. Notre invité est l'actrice Marina Foïs. On va parler du film En roue libre qui sort après-demain mercredi. Marc-Antoine Lebray nous rejoindra pour clore l'émission. Bonjour Stéphanie Loire.
Bonjour Philippe Vandel.
Et bonjour Héloïse Gouard.
Bonjour Philippe, bonjour.
Et je salue également Bruno Donnet.
Bonjour.
Bonjour. Tous les jours, Bruno, vous observez ici les curiosités médiatiques. Et ce matin, vous vouliez évoquer une affaire délicate, celle d'un journaliste polonais qui accuse une équipe de TF1 d'être responsable de la mort d'un soldat ukrainien.
Oui, il s'appelle Mateusz Laszowski. Il est journaliste et réalisateur en Pologne et il affirme sur le réseau social Twitter qu'un reportage diffusé dans le 20h de TF1 serait à l'origine de la mort d'un soldat ukrainien surnommé Kex. D'après lui, TF1 a montré un sujet qui aurait permis à l'armée russe de localiser très précisément la position d'une compagnie ukrainienne présente dans la région du Donbass. Alors, l'affaire est extrêmement complexe, Philippe, parce que le journaliste de TF1 qui est ainsi mis en cause s'appelle Michel Scott. Je vous ai déjà parlé de ses reportages en Ukraine, à ce même micro, pour en vanter les remarquables qualités de courage, de grand professionnalisme et la valeur de documents pour l'histoire de son travail souvent brillant. Ce qu'affirme le journaliste polonais est totalement indémontrable. Car oui, un soldat ukrainien a bien trouvé la mort après un bombardement russe. Oui, TF1 a bien réalisé un reportage sur sa compagnie, mais il est strictement impossible d'établir avec certitude qu'il existe un lien entre ces deux événements, pour la bonne raison qu'aucun membre de l'armée russe n'a bien évidemment confirmé cette information. Pour autant, et pour essayer de démêler cette pelote bien alambiquée, je suis allé revoir le reportage qu'a diffusé TF1.
Ils ne payent pas de mine, mais pour les Ukrainiens, ce type de drone acheté dans le commerce peut faire la différence sur le champ de bataille.
Ça s'est passé le 17 juin dernier. L'équipe du journal de 20h s'est intéressée à la manière dont l'armée ukrainienne utilisait des drones pour repérer les positions russes.
Vous voyez le point noir sur la colline ? C'est un char russe.
Et dans ce reportage, il y a effectivement une séquence qui pose question. À l'image, on découvre un militaire ukrainien. Il est assis devant une carte d'état-major et il répond aux questions de TF1.
Nous avons déjà détruit deux tanks, ici et ici.
Le plan est d'abord serré, extrêmement serré, sur la carte et montre deux zones dans lesquelles il y a de l'eau ainsi que des lignes et des parties coloriées par les Ukrainiens dont il est franchement très difficile de savoir ce qu'elles représentent. Et puis l'interview se poursuit et cette fois-ci la valeur de plan change. Le militaire apparaît à l'image devant la carte filmée cette fois-ci en plan extrêmement large.
Mes positions sont là. Vous tout à l'heure vous étiez à cet endroit. Et c'est de cette zone que mes dronistes décollent d'habitude.
Bref, dans ce reportage, on voit donc effectivement une carte. Elle est montrée deux fois, la première en plan très très rapproché, la seconde en plan très large. Impossible, très honnêtement, de dire si ces images ont pu permettre de fournir des renseignements géographiques suffisamment lisibles et déchiffrables. Mais le journaliste polonais reproche à TF1 de n'avoir pas flouté les plans de cette carte d'état-major avant de les diffuser. Il n'est pas le seul à alerter sur ce point. De nombreux spécialistes de ce qu'on appelle aujourd'hui l'open source intelligence mettent en garde sur le fait que, sur une image, le moindre détail peut se transformer en renseignement précieux pour les militaires. Où l'on comprend, Philippe, qu'en temps de guerre, si l'information est une arme, elle peut aussi se retourner contre ceux qui l'emploient.
Merci beaucoup Bruno Donnet. À demain Stéphanie Loire, beaucoup plus joyeux. Le programme de votre indispensable ce matin, ce sera aux alentours de 10h30.
Je vais vous parler de Christine and the Queens, qui est de retour avec un nouveau personnage sous le nom de Redcar, et puis aussi d'une découverte avec un artiste qui interroge la masculinité sous le nom de Lucky Love.
Que des pseudos. Héloïse Gouard, c'est votre vrai nom. Votre programme aujourd'hui.
Une découverte aussi avec une série aussi inclassable que géniale. C'est signé Olivier Assayas. Tenez, je vous la résume en quelques mots. Film muet, mise en abîme, vampire. Vous êtes bien avancé là, Philippe?
Mais évidemment, dans un instant, Marina Foïs va tout nous expliquer. Blague à part, on va parler avec elle de ce film En roue libre qui sort après-demain, dans lequel elle a le premier rôle qu'elle partage avec une voiture, il faut le dire. Mais d'abord, musique, c'est Kimber Rowe sur Europe 1.
9h-11h,
Europe 1 Culture Média,
Philippe Vandel.
Bonjour Marina Foïs.
Bonjour.
Vous êtes actrice, vous êtes une des rares à avoir fait le grand écart, à savoir le faire entre les auteurs. Vous avez tourné avec Christophe Honoré, Laurent Cantet, Catherine Corsini, et des comédies populaires comme La Tour Montparnasse Infernale, Astérix Obélix, c'était La Mission Cléopâtre, Boule et Bill ou Le Grand Bain. Également des films à part comme Police ou Darling. Et on vous avait découverte faut pas l'oublier, dans la troupe des Robin des Bois sur Canal+, et vous êtes toujours dans celle de Chabat dans Burger Quiz. Votre actualité, c'est ce film En Roue Libre, signé Miguel Barcelo avec Benjamin Voisin. Ça sort
Je crois qu'il s'appelle Didier Barcelo.
Vous savez ce que je me suis dit en préparant la chose ? La première personne que j'ai interviewée quand j'étais journaliste actuel, c'est un immense peintre catalan qui s'appelle Miguel Barcelo. Et j'ai dit tout à l'heure, Élise Goua, tu vas voir que je vais me viander et que je vais dire Miguel Barcelo. Mon inconscient va remonter.
Voilà, c'est Didier.
Et j'ai bien écrit Didier dans l'interview que j'ai écrite.
Didier, c'est un prénom de chien. Qui a une histoire. Voilà. Donc on est, oui.
Référence à Alain Chabat. C'est vraiment un film oxymore. C'est un road movie en même temps que c'est un huis clos. Suivant le moment du film, il peut être vu comme une comédie, comme un thriller, comme un film social, voire peut-être comme une comédie romantique. Qui est Louise, votre personnage, et pourquoi elle ne peut pas sortir de sa voiture alors qu'elle en a les clés ?
Louise, elle est infirmière, elle va avoir 45 ans dans 3 jours. Elle est au bout de sa vie. Un matin, elle se lève, elle est obligée de déplacer sa voiture parce qu'elle s'est mal garée, qu'il y a une flic qui est en train de lui mettre un PV. Elle descend vite fait. La flic l'oblige à déplacer sa voiture et une fois qu'elle est montée dans sa voiture, elle est prise d'une crise d'angoisse qui la cloue. Elle est incapable de faire un mouvement, elle est incapable de sortir de sa voiture.
Ce qui est extraordinaire, c'est que ça pourrait être raconté comme une fable, mais on y croit. Quand on voit le film, on se dit, elle ne peut pas sortir de cette voiture. Comment vous avez fait pour rendre cette pathologie crédible ? D'abord, est-ce que ça existe ?
Alors d'abord, ça existe. Je ne sais pas si vous avez jamais eu de crise d'angoisse, mais moi j'en ai eu. Je n'ai pas eu d'attaque de panique, c'est le degré au-dessus, mais des crises d'angoisse qui vous paralysent le cerveau, qui vous rendent incapable de penser, donc de bouger.
Je vais vous dire, j'en ai jamais eu. Ça se manifeste
alors,
comment ?
Ça, mais c'est dingue. En tout cas, alors les journalistes et les présentateurs radio et télé, ils ne connaissent pas les crises d'angoisse. Je n'ai pas fait une interview où il y a un homme qui me dise qu'ils connaissent. Peut-être c'est un truc féminin.
Homme ou une femme ?
Non, les hommes, ils ne connaissent pas. Ouais. Peut-être c'est un truc féminin, je ne sais pas.
Ah, d'angoisse au point de ne pas pouvoir bouger, ça ne m'est jamais arrivé. Ça se manifeste comment ? On ressent quoi ?
C'est le cerveau qui se paralyse et les images fictionnelles que produit votre cerveau sont plus fortes que la réalité. Voilà. Et en tout cas, c'est ce qui arrive à Louise. Et c'était mon travail. Vous dites comment vous avez fait pour le rendre crédible. Ouais. C'est exactement mon travail. Il suffit de le croire très fort au premier degré. Si je me dis à moi-même, comme c'est mon métier et que je me fais confiance à moi-même, si je me dis tu ne peux pas sortir, alors je le crois. Et si je le crois très fort, a priori, vous allez le croire.
Ça ne se termine pas là, évidemment. Elle ne peut pas sortir de cette voiture, mais il leur arrive plein de choses à elle et à la voiture. D'un mot, on va entendre la bande-annonce, mais est-ce qu'on peut, en gros, dresser un tableau à grands traits de cette histoire ?
Comme elle est bloquée dans sa caisse, elle va commencer par rouler un peu, parce que qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre ? Donc, elle roule, et puis à force de rouler, elle finit par avoir plus d'essence. Donc, elle échoue sur un parking d'un hôtel Ibis de Bourgogne, et pendant la nuit, alors qu'elle est sur le siège arrière, il y a un jeune homme qui vient pour braquer la caisse. Donc elle se cache parce qu'elle a peur, en espérant qu'il n'y arrive pas, sauf qu'il y arrive.
Il y arrive et il braque la caisse, avec elle dedans. On entend la bande-annonce et on en reparle.
Qu'est-ce que tu fous là, toi ? Tu dégages !
Non, je peux pas sortir de ma voiture.
Tu te fous de ma gueule ou quoi ? Tu peux pas sortir là ?
Non, je peux pas sortir, je suis incapable, c'est physique.
J'arrive à tirer une caisse, il y a une cinglée dedans, putain. Moi, je vous préviens, je vais au Cap Ferret.
Mais moi, j'habite à Beaune.
Je vais au Cap Ferret.
Pourquoi vous avez une arme ?
C'était mon frère. Il s'est fait renverser par un enculé. Et moi, je vais le buter. Et vous ?
Mon ex-mari est tombé amoureux de ma meilleure amie.
Quelle grosse pute.
Très grosse pute. C'est qui ce type ?
David, il est psy, il va t'aider.
Il faut une à deux séances par semaine pendant des années.
Nouveau challenge. Là, t'as une heure où je te bute.
Parlez-moi de votre père. Il fait quoi ?
Agriculteur. Mais je
vois
pas le rapport.
Pas le vôtre, celui de madame.
Vous pensez qu'il a besoin de vous ?
Il est juste paumé. Hein.
Quand on est paumé, qu'on fait n'importe quoi.
Vous êtes sûr de votre plan ? C'est pas un hasard s'il a débarqué dans ma voiture, non ? On fait quoi s'il pleut ?
C'est ça ton problème, en fait. T'es tout le temps négatif.
C'est le premier film de Didier Barcelo. Je me trompe pas sur le prénom cette fois-ci. Pourquoi vous avez dit oui ? Qu'est-ce qui vous a séduite dans cette histoire ?
Le point de départ assez absurde et justement difficilement crédible, puisque donc il y a un challenge. Et le fait qu'au fond, ça raconte comment deux personnes tout à fait paumées l'un et l'autre, à des âges très différents de leur vie, qui se trouvent un peu sur le bord de la route l'un et l'autre, vont s'aider. Comment une rencontre improbable, un mariage pas très assorti peut être la solution. Et j'aime bien cette idée-là, que la vie, aussi violente, aussi pénible, aussi dure soit-elle, elle vous réserve des surprises de taille, que la chance, ça peut être l'autre, que la renaissance, ça peut être un inconnu, et qu'en fait, si on pousse le raisonnement jusque-là, c'est un film contre la peur ou contre les peurs, et ça, j'aime bien, surtout sur un ton léger et absurde.
Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que vous ne rencontrez pas, enfin votre personnage ne rencontre pas le Père Noël, mais un être tout autant cabossé.
Oui.
Mais les deux cabossages font que ça devient quelque chose de beau.
Oui, oui, Benjamin Voisin, qui est donc mon sexy partenaire, ouais. Mon compère, il disait ça l'autre jour, et c'est vrai que je ne l'avais pas vu comme ça. Il dit, en fait, quelqu'un qui va bien et qui aide quelqu'un qui va mal, en fait, c'est suffisamment banal pour que ça ne fasse pas un film. En revanche, deux personnes qui ne vont pas bien et qui vont être la solution l'un pour l'autre, au fond, ça, c'est sexy, c'est tendre, c'est plutôt beau et c'est une bonne nouvelle.
Je peux faire un compliment ?
Ouais.
J'ai vu des dizaines et des dizaines de scénarios où il y a deux personnes cabossées qui s'assemblent et on n'y croit jamais. Et là, on y croit totalement. Il y a une alchimie qui s'opère, je ne sais pas comment ni pourquoi, vous allez me dire que c'est votre travail, mais ça fonctionne à 100%. Je sais, c'est même pas une question.
Non.
Mais je voulais le dire, voilà.
Non, évidemment, c'est notre travail, mais aussi, il y a des choses qui se passent entre deux acteurs, c'est assez miraculeux, et c'est difficile à décortiquer, mais je pense que c'est une question de chimie. Mm-hmm. La première fois qu'on s'est rencontré avec Benjamin, il se trouve que moi je l'avais vu dans Été 85 de Ozon, et que j'avais très très envie de cet acteur parce qu'il me semble passionnant. J'avais très envie de le rencontrer, je pense que la réciproque était vraie, et la chimie a opéré, ça marche. Je ne sais pas si c'est une question de peau, de rythme, de musique intérieure, mais en tout cas, il me rend curieuse et je l'intéresse. Donc ça marche, en fait.
On n'a même pas encore parlé de la deuxième comédienne du film, qui est la Volvo. Culture Média continue. On est avec Marina Foïs, à tout de suite.
9h-11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Blandel.
En compagnie de Marina Foïs, à l'affiche de ce film En roue libre, ça sort demain. Premier film de Didier Barcello. C'est avec Benjamin Voisin, dont on a dit tout le bien qu'on pensait.
Et Jean-Charles Clichet.
Oui, et il y a aussi le papa de Julie Delpy, si je me souviens
absolument.
Bien. Il y a aussi la voiture qui est très spectaculaire, je vais la citer, c'est une Volvo 240 Break. Je déteste ce cliché, mais là c'est presque vrai, elle a un personnage dans le film. Pourquoi elle ? Comment elle a été choisie ?
Alors ça, je ne sais pas, il faudrait demander à Didier Barcello. J'imagine que elle est jaune, j'imagine que c'est un choix de DA.
J'ai lu qu'il l'avait repeinte, qu'elle n'était pas jaune à la base.
Oui.
Mais c'est qu'il faut qu'on puisse y faire plein de choses. C'est pour ça qu'elle est break.
Oui, il fallait, parce qu'en fait, il y a une contrainte pour les acteurs, puisque c'est un huis clos et donc on a un décor unique qui est tout petit. Mais la contrainte, elle est encore plus forte pour la caméra, parce qu'il n'y a pas de demi-axe possible à l'intérieur d'une voiture. Et pourtant, ils ont quand même essayé de réinventer un peu la grammaire.
Mais c'est aussi un objet transitionnel, comme disent les psys, puisqu'ils auraient pu choisir un énorme 4x4 avec beaucoup de recul, mais non. Parce qu'à l'intérieur, il y a un radiocassette.
Ouais,
parce
mais il y a une réalité sociale aussi. Elle est infirmière.
Exactement.
Son père était petit commercial dans une entreprise de je ne sais pas quoi. Donc ces gens-là n'ont pas des Hummers. Ils ont des voitures normales.
Voilà. Mais ce qui est très intéressant, c'est le radiocassette.
Oui, parce qu'en fait, c'est la voiture de son père. Et dedans, elle a laissé un radiocassette où les cassettes sont rangées par ordre alphabétique, ce qui évidemment paraît surréaliste au personnage de Benjamin, du haut de ses 20 ans. Et j'écoute Véronique Sanson qui ne connaît même pas, qui ne l'a jamais entendu. Donc c'est vraiment deux mondes qui se rencontrent.
J'ai retrouvé, Marina Foïs, une interview de vous ancienne. C'était dans le mensuel Marie-Claire. On est en avril 2008, donc ça fait une paire d'années. Et vous racontez que l'endroit où vous êtes le plus vous-même, c'est votre, vous vous souvenez de cette interview ? C'est votre
tout.
Voiture.
Attendez, ajoutez... je voudrais préciser qu'en interview, on ment beaucoup et on dit beaucoup n'importe quoi.
Mais là, quand
quoi.
Même, Marina Foïs, deux points, ouvrez les guillemets, Marie-Claire, avril 2008, cette voiture est une poubelle avec des bouteilles vides, des mégots, une peau de banane, mais elle me ressemble.
Ah oui,
vous
je
l'avez
parlais
dit ça
de ma Twingo. Oui, c'est possible. C'est possible.
Je ne m'attendais pas à ça. Mais vous ne voyez pas comme ça. Ou c'est fini, vous avez évolué, c'était en 2008, vous n'êtes plus la même personne.
Non, bah aujourd'hui, ça ne me viendrait pas à l'idée de parler de ma voiture. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui m'intéressent beaucoup plus que ma voiture.
Non, ma question n'était pas celle-ci. Est-ce que vous vous comparez à des bouteilles vides, à des mégots, à une peau de banane ?
Oui, je suis faite de plein de choses différentes, pas que de la hype. J'ai un petit fond de boue en moi, comme tout le monde en fait. Je suis un mélange de choses très différentes, du vécu, du futur, des espoirs. Le moins de désespoir possible, voilà.
Je vais revenir au film, un extrait. Vous n'avez plus d'essence, vous l'avez dit, vous échouez sur ce parking d'hôtel, toujours à bord de cette Volvo. Avant même de rencontrer Paul, vous demandez de l'aide à des éboueurs qui ont l'air de pas du tout comprendre ou pas trop votre détresse.
Excusez-moi, s'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous pourriez m'aider à sortir de ma voiture?
Ça va pas, madame?
Bah... En fait, non, je... Je suis bloquée dans ma voiture depuis ce matin, j'en peux plus là, c'est un truc de dingue en fait, je sais, c'est une crise d'angoisse ou je sais pas, enfin, je suis jamais malade, mais donc voilà, j'arrive pas à sortir, je me disais peut-être vous pouvez me tirer un bon coup hors de la voiture, ce serait vraiment gentil s'il vous plaît. Je vous en supplie. Je vous en supplie vraiment, j'en ai marre. Non mais comme, je sais pas, vous savez, vous voyez ce que c'est qu'une poubelle, et bah dites-vous que je suis une poubelle et puis vous me prenez, vous me jetez sur le parking, s'il vous plaît.
Et pardon encore de ce compliment, ça sera le dernier, mais on y croit vraiment. Et les éboueurs ont l'air de vous croire, que vous êtes incapable de sortir de cette caisse.
Je vous jure que, c'est la... je vous jure que ça arrive.
Ouais. Vous restiez combien de temps dans la voiture pour le tournage? Est-ce que c'était acteur studio ou vous faisiez exprès de faire la pause
non,
dans la voiture?
Non, alors je n'ai pas dormi dans la voiture, j'allais voilà. À l'hôtel. Comme
ça allait être un peu ma question.
Non, je ne suis pas très acteur studio. Moi, je pratique la distance comme Depardieu ou Mastroianni ou Huppert. Non, mais on y passait... Une journée de tournage, c'est par exemple 9h-18h. Donc j'y passais de 9h à 18h. J'avais le droit de sortir pour aller déjeuner. On a aussi une pause déjeuner sur les tournages. Mais voilà, sinon je restais à l'intérieur. Après, moi, je peux être une bonne grosse flemmasse. Donc l'idée de jouer un rôle entier assise, en fait, ça ne me déplaisait pas. Ah, par contre, j'ai un petit quiz.
Allez-y.
Vous aurez la réponse en voyant le film. Comment peut-on, quand on mesure 1m62, se mettre debout dans une voiture sans en sortir?
Alors, un, j'ai vu le film.
Ouais.
Deux, j'ai adoré ce passage.
Ouais.
Trois, je me suis dit, je ne vais pas le raconter pour ne pas spoiler.
Non, mais on peut poser une petite énigme.
On pose la petite énigme. Je n'ai pas raconté comment le film évolue, mais il évolue. Les situations, les personnages, évidemment, et même votre mine. Alors que vous êtes toujours habillé pareil, on a l'impression que vous vous détendez au fur et à mesure du film. Ou est-ce que c'est une impression?
Non, absolument. C'est l'histoire de quelqu'un qui s'ouvre et qui s'abandonne à cette rencontre-là. Je pense qu'il y a un travail de maquillage et un travail de lumière qui fait que le visage se dédurcit. Je pense qu'au fur et à mesure, la maquilleuse a caché les cernes, peut-être a mis du rose sur les joues, très technique. En fait, c'est comme ça que l'évolution elle se raconte. Et puis dans le jeu, en fait, je pense qu'il me remet de la lumière un peu dans les yeux, le gosse. Et voilà.
Je voudrais qu'on entende un dernier extrait. C'est un peu plus tard dans le film, évidemment. Paul décide de vous prendre en main. C'est ce type qui entre dans votre voiture, qui fait irruption pour la cambrioler. Finalement, il vous embarque avec elle. Je passe plein de détails, évidemment, plein de péripéties. À un moment donné, vous êtes devant un hôpital et là, il décide de kidnapper un psychiatre qu'il force à vous faire une psychanalyse express en une heure, pistolet sur la tempe, pendant que vous, vous conduisez.
Bon, bah, Louise, tu lui parles et toi, tu règles son problème.
J'ai aucune envie de parler avec ce type.
Mais oui, madame a raison. Un psy, ça se choisit, c'est une relation de confiance.
Ta gueule, tu fermes ta gueule et tu lui parles.
Non mais attendez, je comprends pas là, vous voulez quoi?
Mais moi je veux rien, moi je demande rien, c'est elle veut sortir de la voiture. Et elle peut pas, elle y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'elle est bloquée. Parce que tout le monde s'en branle d'elle. Son ex, il s'en fout, son fils il est à l'autre bout du monde, son père il est à l'ouest, sa mère elle est morte, c'est une catastrophe ça.
Ouais, et lui il veut aller au Cap Ferret pour tuer le type qui habitait son frère.
Non, bah, je vous demande de me laisser descendre.
David, fais pas de conneries putain, calme-toi. On va te laisser descendre mais d'abord tu la débloques.
Il a débloqué de quoi?
Des bouchées du cul ou quoi? Blocage, transpiration, dépression. Regarde de là, elle transpire comme un veau. Les yeux, angoisse. Ça va pas, ça fait 3 jours comme ça. Hein.
Ouais, c'est vrai, ça fait 3 jours.
Voilà, alors là, tu lui demandes des trucs sur l'enfance. Vas-y. Un tonton, peut-être un repas de famille, qui l'a caressé un peu, et paf, ça remonte à la surface comme par hasard maintenant.
Non mais attendez, c'est n'importe quoi là.
J'en sais rien, c'est ton métier, non. Pas le mien.
Oui, non mais
toi,
attendez,
merde.
C'est pas si simple que ça non plus.
C'est un vrai psy?
Non, c'est Jean-Charles Clichet, qui est un grand acteur que vous avez vu chez Honoré, Guiraudy. Mec formidable, très
voilà.
Drôle.
Et très très bon, même un revolver sur la tempe. Culture Média continue à parler de musique avec Marina Foïs. A tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Marina Foïs, à l'affiche de En roue libre, c'est le premier film de Didier Barcelo. Ça sort demain, c'est avec Benjamin Voisin. Benjamin Voisin, avec qui vous faites découvrir, en tout cas son personnage dans le film Les Cassettes, Véronique Sanson. Et dans la vraie vie aussi, il ne savait même pas qui était Véronique Sanson.
Non, il ne la connaissait pas.
Et vous, à la base, vous étiez fan ou pas du tout?
De Véronique Sanson?
Oui.
Oh, je l'aime beaucoup.
D'accord.
J'aime sa musique, mais j'aime aussi la femme qu'elle est. Je la trouve marrante.
C'était pour faire un lien avec Benjamin Voisin. Signe des temps, il est beaucoup plus jeune que vous.
Oh, à peine. Bon,
je vais vous dire ce qui m'a plu, c'est qu'il y a 20 ans, La différence d'âge aurait été relevée dans tous les articles, et là, ça passe crème, et je me suis dit, tiens, ça évolue.
Est-ce que c'est pas parce que je suis très très jeune?
Aussi, voilà. aussi. Vous confirmez cette info, il n'a pas le permis de conduire?
Non, il n'a pas le permis et il a conduit.
Donc... Ah mince, qu'on vous a fait sur des routes fermées?
Bah oui, on a pris le risque, ils ont dû me mentir, j'aurais jamais accepté.
Je l'ai noté parce que ça m'a rappelé une anecdote géniale qu'avait raconté un jour dans Cinéma, Jean-Luc Godard. Vous voyez le film Johnny Guitar avec Sterling Hayden?
Ouais.
Johnny Guitar, c'est un cow-boy, il joue de la guitare et il tue des gens avec son revolver. Ils ont choisi pour le rôle Sterling Hayden, qui ne sait pas jouer de la guitare, qui ne sait pas monter à cheval et qui ne sait pas tirer au pistolet. Et il dit, il n'y a que le cinéma qui peut faire ça.
C'est vrai.
On est d'accord.
Ouais. Ça nous donne des compétences qu'on n'a pas. C'est merveilleux.
Vous avez des compétences musicales? Vous avez pris des leçons de piano? Il vous en reste quoi?
Oui, j'ai appris le piano pour le film énorme de Sophie Le Tourneur. Il ne m'en reste rien. Il m'en reste 3 notes.
Attendez, c'est pas vrai.
C'est pathétique, je vous jure.
Je ne vais pas faire un retour dans votre enfance. Vous n'avez jamais appris le piano quand vous étiez petit?
Bien sûr, j'ai fait 8 ans. Ouais, sauf que.
C'était ça ma question.
J'ai fait 8 ans de piano, sauf que la prof a fini par convoquer mes parents en disant franchement, elle n'a aucun talent. Même au-delà du talent, elle n'a aucune aptitude. Laissez-la tranquille. Alors que j'étais une gamine, je savais faire. Je veux dire. J'étais pas un enfant inadapté, je savais faire plein de trucs, mais j'étais nulle en musique, donc on a arrêté.
Le prof qui convoque les parents, j'avais encore jamais vu. Non, en général, c'est les parents qui convoquent
si,
la prof.
Si, en disant mais arrêtez, vous foutez de l'argent par les fenêtres, ça n'ira nulle part cette histoire.
Je vais parler de musique, on va parler de musique avec vous Stéphanie Loire.
Bonjour à tous, bonjour Marina. Bonjour.
Vous allez commencer par nous parler de Christine and the Queens, de retour, c'est un personnage Christine and the Queens au sens propre du terme, de retour avec un nouveau personnage justement.
Oui, il y a eu Chris, et puis depuis la sortie de son album La Vita Nuova, c'était en 2020, Christine and the Queens, elle est apparue sur plusieurs collaborations, notamment avec Indochine, avec qui elle a repris le tube culte Troisième Sexe. Elle en a fait 3 sexes, c'est canon. Elle a aussi collaboré avec la chanteuse pop britannique Charlie XCX, c'était sur le titre Gone. Aujourd'hui, c'est en solo qu'elle revient avec un single. Elle nous présente Red Car, c'est son nouveau personnage. Son titre, il sonne très 80s, cette belle époque où on portait des épaulettes, Philippe, où on fumait fenêtres fermées dans la Fuego, où l'on mettait 8 heures à rembobiner une cassette. Ça vous manque cette époque ou pas?
Avec un crayon bic, moi non, mais je me souviens très bien.
Non, moi je préfère le futur que le passé. Ah,
très bien. Les années 80, elles sont, quoi qu'il arrive, en pleine hype musicale aussi, grâce à des artistes comme Fishbag, Alipaz, The Weeknd et bien d'autres qui
Fishback, injectent j'adore.
Hyper bien ce qu'elle fait, qui injectent des influences dans leurs albums. On la salue, elle nous écoute sur Europe 1 souvent. Écoutez, comme Je te vois enfin, c'est le single de Red Car, ex Christine and the Queens, et clairement on entend des sonorités 80s. Alors, il est comment le nouveau Red Car? C'est ce qu'on se dit dans les couloirs des radios.
J'aime. Et deux, ça m'évoque une chanteuse des années 80 qui s'appelait Valérie Lagrange, qui a été complètement oubliée, avec le même timbre de voix, de fond de gorge rocailleux. Vrai ou pas?
Valérie Lagrange, je ne vois pas du tout qui c'est.
Ah bon? Je me suis bien fait avoir par elle.
On ira se renseigner. Il y a une mélodie synthétique, elle est portée par des paroles mystérieuses, hein, si vous penchez vraiment dessus. L'ambiance, ça nous rappelle du Dépêche Mode, peut-être aussi des ambiances un peu New Wave à la Soft Cell, sur lesquelles vous avez, j'imagine, allègrement dandiné du bassin.
Tellement,
avec un air désabusé, Philippe.
Mais évidemment.
Je vous vois tellement. Et pour le côté bien barré des textes, on pense un peu à Mylène Farmer. Voilà pour les influences. L'artiste, elle s'est entourée d'une équipe de talents pour la fabrication de ce titre. Mike Dean, qui est un producteur américain qui a collaboré avec Kanye West, entre autres, et Lana Del Rey pour le mix. Pour le visuel de la pochette, il a été réalisé par le photographe star de la mode, Pierre-Ange Carlotti. C'est une nouvelle ère pour Chris, qui se présente sous une identité masculine, vêtue d'un costume oversize et d'un gant rouge sous le nom de Red Car. En termes d'univers, c'est un peu le fils spirituel de Michael Jackson et du regretté Christophe, dont Christine and the Queens avait d'ailleurs repris les Paradis Perdus en 2014.
Ça m'a plongé, Philippe, dans une nostalgie.
C'est vrai.
On l'a perdu.
Un nouvel album en préparation. Je pensais que vous parliez de vous. Nouvel album en préparation.
Oui, c'est ce qui pourrait se tramer. Il y a à peine moins d'un an, Christine and the Queens, elle avait annoncé faire une pause des réseaux sociaux pour se concentrer sur la conception d'un troisième album. Donc le nouveau single nous laisse penser que ce serait une mignardise qui annoncerait la suite avec un album. Mais pour le moment, on n'a ni date officielle ni aucune info. Voilà.
Et pour conclure, une autre actualité musique, une découverte cette fois, vous m'avez dit qu'il questionne également la question du genre.
Oui, il s'appelle Luc Bruyère. Il se produit au cabaret Madame Arthur. Il est danseur, il est comédien. C'est un mannequin très prisé. Il est né avec un seul bras, mais lui, il n'a jamais vu cette altérité comme un handicap, plutôt comme une différence qu'il a transformée en une force. Il est chanteur sous le nom de Lucky Love. Il vient de publier un titre porté par un clip qui interroge la masculinité, la sienne en tout cas. Tell me baby, baby, do I walk like a boy? Do I speak like a boy? Do I stand like a boy? Sorry babe, you keep asking, do I kiss like a boy? Should I spit like a boy? May I fuck all the boys? Tell me baby, baby, do I walk like a boy? Do I speak like a boy? Do I stand like a boy? Sorry babe, you keep asking, do I kiss like a boy? Should I spit like a boy? May I fuck all the boys? Tell me baby. Vous posez ce genre de questions parfois, Philippe, parce que vous devez manger et pleurer comme un homme?
Pas du tout, mais je me disais que ça ressemblait à rien et c'est vraiment une qualité quand j'écoute de la musique.
La production musicale est signée Jérémy Châtelain, qui collabore entre autres avec Brodinski ou Camélia Jordana. Et moi je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions dans ce titre-là, et qui en plus a pour but d'éveiller les consciences et de questionner la société.
Ça vous a
séduit? Ça m'a plu beaucoup. Moi, je le connais. Enfin, je le connais, oui. Oui, je vois très bien qui c'est et j'aime beaucoup ce titre.
Le clip est très beau.
Je vais regarder.
Ouais.
Ça s'appelle Masculinity, c'est signé Lucky Love, c'est disponible partout sur toutes les plateformes. Et puis Christine and the Queens sous le nom de Red Car, qui veut dire voiture rouge, qui fait le lien avec la Yellow Car.
Vous êtes bilingue apparemment,
tellement bilingue.
C'est Stéphanie Loire qui m'a tout appris. Merci beaucoup. On va parler série avec Héloïse Goy. Culture Média continue, on est avec Marina Foïs.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En roue libre, c'est pas mon avis, c'est le titre de ce film avec Marina Foïs, signé Didier Barcelo, qui sort demain. C'est avec Benjamin Voisin. Marina Foïs, qui est notre invitée, on va parler série avec vous et avec Héloïse Goy. Rebonjour.
Rebonjour, bonjour Marina Foïs.
Bonjour.
Aujourd'hui, Héloïse nous parlait d'une série particulièrement originale.
Oui, pour ne pas dire que c'est un ovni. Je vous préviens, cette série est presque impossible à résumer. C'est même ce qu'on appelle une série méta. C'est pas pour vous faire peur, mais une série méta, c'est une série qui superpose les mises en abîme. Mais c'est tellement génial et malin qu'il était hors de question de vous en priver. Alors peut-être que vous avez déjà vu le film Irma Vep d'Olivier Assayas, oui, qui date de 1996.
Qui parlait de vampires.
Absolument. Et bien 26 ans plus tard, Olivier Assayas a eu la très bonne idée de faire un remake de ce film avec cette mini-série qui s'appelle toujours Irma Vep. Je précise que cette série est une production américaine, c'est produit par HBO, avec un casting international. On y retrouve Vincent McCain, Jeanne Balibar, Vincent Lacoste, l'anglais Tom Sturridge qu'on avait vu dans Good Morning England, mais aussi l'actrice suédoise Alicia Vikander qui, elle, a joué dans des blockbusters comme Jason Bourne, Tom Hider ou James Bond. Ça vous donne déjà une idée du côté hétéroclite et ambitieux de la série.
Alors, c'est Nicolas Jesguer qui fait les costumes.
Je ne le savais pas, maintenant je le note. Voilà.
Très bien informé.
Le pitch que raconte cette série, question un peu, vous m'avez dit, elle est impossible à résumer, mais quand même vous allez vous lancer là-dedans.
Oui, je me suis arraché les cheveux, mais je l'ai fait pour vous, Philippe. Essayons de ne pas vous faire de nœuds au cerveau. On commence par faire connaissance avec Mira, c'est une star de cinéma américaine qui débarque à Paris pour jouer dans un remake de film muet de Louis Feuillade qui s'appelle Les Vampires, un vrai film qui date de 1915. Et Mira va incarner Irma Vep, l'héroïne cruelle de ce remake. Le fil rouge de cette histoire, c'est que cette Mira, eh bien, elle va avoir de plus en plus de mal à se distinguer de son personnage Irma Vep, qui est une femme très étrange. En fait, elle ne sait plus bien quand elle joue ou quand elle est elle-même. Peut-être que ça vous est déjà arrivé avec des rôles, Marina.
La tête de Marina. Oui, ça sent le vécu, non?
Non.
Ah. Mais tant mieux pour votre santé mentale, parce qu'ici, ça ne se passe pas très bien. Et justement, ces frontières qui s'effacent entre fiction et réalité, c'est un peu toute la question de fond de cette série. Et ça, c'est pour le fil rouge. Mais à côté, on rencontre aussi d'autres acteurs qui participent au tournage de ce film et qu'on voit évoluer à la fois dans leur vraie vie, mais aussi à travers les personnages qu'ils incarnent dans Les Vampires. Et puis à l'origine de ce remake, il y a un personnage très important, c'est René Vidal, un réalisateur talentueux mais très très instable.
Un souci en particulier ?
Rien de bien grave. En fait, je supporte pas les gens. Enfin, plus précisément, je supporte pas l'interaction avec les gens. C'est-à-dire que je préfère éviter les gens.
Et vous faites des films ? C'est difficilement envisageable.
Il faut avoir peur, là. Moi, j'ai pas eu peur. Okay. L'épisode s'appelle la tête coupée. Alors, il faut voir la tête coupée. Madame, la cascadeuse, essayez de le frapper beaucoup plus fort. Vraiment, faut pas se retenir, faut y aller.
Oh, bah, désolé, moi, elle m'a fait mal. Je suis pas d'accord pour qu'elle me frappe plus fort. Hein.
Non, mais si elle frappe pas assez fort, ça sonne faux.
Vous avez reconnu Vincent McCain, oui. Marina Foïs.
Oui.
Et dans ce personnage de réalisateur ultra exigeant et très perturbé, on peut aussi reconnaître le double fictionnel d'Olivier Assayas. Je vous laisse découvrir pourquoi. C'est pas juste grâce à cet extrait qu'on reconnaît le double d'Olivier Assayas, qui n'épargne pas non plus les acteurs qu'il dépeint comme des gens souvent ingérables, pour ne pas dire insupportables. Et de manière générale, de toute façon, le cinéma prend bien bien cher dans cette série qui dresse un portrait au vitriol de ce milieu. Et avec toutes ces mises en abîme, on sent que Olivier Assayas s'est régalé dans la réalisation. Il joue avec des images restaurées du vrai film de Louis Feuillade. Il tourne aussi lui-même beaucoup d'images en noir et blanc, des séquences en muet. Et tout ça, ça contraste avec des images très modernes, qui sont même parfois tournées à la manière d'un documentaire, voire d'un making-of. Et c'est tout ce mélange qui rend la série ultra originale. Mais vous l'avez compris, c'est dense. Il ne faut pas cuisiner ou faire du tricot en même temps, Marina. Mais c'est aussi drôle, c'est intelligent, c'est très fin. C'est presque une œuvre d'art qu'on peut interpréter de mille façons différentes. Gros, gros coup de cœur, donc.
Où est-ce qu'on peut voir, Héloïse, cette série?
Alors, ça s'appelle Irma Vep. Pour l'anecdote, si vous ne l'avez pas remarqué, Irma Vep, c'est l'anagramme de vampire. Vous l'aviez, Philippe?
Je le savais.
Vous l'aviez, Marina?
Évidemment.
On le savait, c'était déjà dans le film. C'était déjà dans le film il y a 26 ans, donc je le savais, je m'en souvenais.
Mais parce que c'est pas dit dans la série, hein. Faut juste un peu faire fonctionner ses ménins. La série est en cours de diffusion sur OCS. Il y a déjà 3 épisodes de disponibles. Je crois que le 4e arrive aujourd'hui et un nouvel épisode arrive chaque semaine.
Est-ce que ça peut vous tenter, ce genre de série, Marina Foïs?
Absolument.
Ah voilà, même si vous n'êtes pas fan de série.
Non, c'est-à-dire j'adore les séries, mais c'est vrai que dans mon emploi du temps chargé, ma priorité va toujours au cinéma et à la salle. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je suis vieille, mais c'est vrai que...
Non, voilà. Mais c'est chronophage une série, contrairement à un film aussi.
Oui. Mais d'ailleurs, en ce moment, en salle, il y a le film de Michel Hazanavicius qui s'appelle Coupé, qui est hilarant et qui parle aussi des gens de cinéma et qui montre si bien combien on est à la fois dans le même mouvement, pathétique et flamboyant. Et c'est un très bon film, très drôle, que je vous recommande. Il est en salle encore.
Absolument. Coupé. Il y a beaucoup de similarités entre les deux. J'y ai pensé.
Exactement. Qui devait s'appeler Z.
Oui,
et qui a changé de titre à cause de
la guerre en Ukraine. Oui.
Exactement. Mmh. Et le Z qui est barré sur les chars russes, vous savez quoi ? Jérémy Hébert et ses équipes, ils ont retrouvé Valérie Lagrange.
Je suis allée au nord, je suis allée au sud. Je suis allée à l'est, je suis allée à l'ouest.
Voilà, c'est un peu le son années 80. On a connu avec plus de basses. Moi, j'ai une autre version.
Ah oui,
mais en tout cas, c'est ce titre-là. Vous avez raison, c'est pas un vrai nom pour faire carrière.
Oh.
C'était Marina Foïs qui a dit ça pendant la pause.
C'était une vanounette entre qui était destinée à être off.
Ouais.
Valérie Lagrange, si vous nous écoutez, c'était voilà.
Mais voilà, mais bien sûr.
Petite vanne du matin.
On peut s'appeler Balavoine et faire une immense carrière. On peut s'appeler avec n'importe quel nom.
S'appeler Foïs.
Ouais, Jacques Martin. Quel est le nom le plus donné
courant
en France?
Ah oui.
Culture Média continue, c'est à la dernière ligne droite. On est avec Marina Foïs et on en est ravis.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Marina Foïs, En roue libre, premier film de Didier Barcelo. C'est avec Benjamin Voisin. Ça sort demain. Il y a une scène extraordinaire dans un camp de gitans. Je ne veux pas raconter ce qui s'est passé. Où avez-vous tourné?
Dans un camp de gitans, près de Bordeaux.
Et comment était le tournage? Parce que c'est très, très impressionnant. C'est très prenant. On a presque l'impression d'être dans un reportage et non pas dans un film.
Bah oui, c'était très marrant. Moi, c'est ce que j'aime bien dans le cinéma, c'est que c'est l'occasion de découvrir des mondes qu'on connaît pas forcément, de rencontrer des gens que la vie ne nous a pas permis de rencontrer. Donc c'était très marrant. C'était très accueillant. On a bien. Ouais, c'était joyeux.
Et je vais pas dire ce qu'ils ont fait à la voiture. Je peux pas non plus raconter la scène finale. Je veux juste savoir si c'est un trucage.
Non, il n'y a aucun trucage dans ce film. Je fais toutes mes cascades comme Jean-Paul Belmondo.
Vous verrez la cascade. Il faut vraiment aller voir ce film En roue libre qui sort demain. 2 films à venir cet été avec vous, Marina Foïs. Le premier, j'espère bien prononcer, Asbestas, c'est ça?
Oui, Asbestas de Rodrigo Sorogoyen.
Vous avez appris l'espagnol pour le rôle?
Si, claro que si.
Vraiment, ça raconte quoi? Ça sort le 20 juillet, je suis au courant de rien.
Ouais, c'est l'histoire vraie d'un fait divers dont on a beaucoup parlé en Espagne. C'est un couple de Français qui s'installe en Galice pour faire de l'agriculture bio dans un village où il ne reste plus que 2 maisons habitées. La maison d'à côté, c'est 2 frères qui vivent avec leur vieille mère. Au début, ça se passe correctement. Et puis, autour d'un sujet d'éolienne qui provoque un désaccord, l'irréparable sera commis. C'est un peu là. Sorgoyen, c'est un grand metteur en scène espagnol. Vous avez peut-être vu Madre, El Reino, Que Dios nos perdone. C'est un des metteurs en scène européens les plus intéressants du moment. C'est un grand maître du suspense et de la tension. Et en même temps, il pose toujours un regard passionnant sur ses contemporains. Il filme les hommes comme personne. Il est très loin des clichés. Il fait des films de genre, mais en même temps, il s'emmerde quand ses films sont trop genrés. Donc, il dégenre facile. Et c'est vraiment un metteur en scène passionnant.
Et L'année du requin, qui sort le 3 août, c'est aussi un film de genre?
Alors, L'année du requin, ouais, c'est, le pitch, il est simple. C'est Les Dents de la Mer à Arcachon. C'est réalisé par les frères Boukerma, ouais, qui sont deux jeunes frères qui avaient fait Teddy et Willy Premier. Eux aussi sont pétés de talent. Je pense qu'ils vont faire beaucoup de grandes choses dans le cinéma français. C'est un mélange de choses très très ludiques. Ils ont une grande culture cinématographique. Donc eux, pareil, ils saisissent le genre, mais ils le réinventent. Le casting, c'est Cadmerade, Jean-Pascal Zadi, moi, Christine Gauthier et des noms professionnels. Et en fait, ils mélangent tous les genres avec une habileté. En fait, c'est pas du tout une pause. C'est vraiment leur ADN. C'est des films surprenants. Je ne peux pas les comparer. Peut-être à quelques films du cinéma asiatique, là où ils mélangent les genres très très bien. Pareil, c'est des mecs passionnants à suivre. Très drôle.
L'année du requin, c'est le 3 août et le 20 juillet, ce sera Asbestas. Et demain, ce sera En roue libre avec Marina Foïs. C'est la question que tout le monde vous pose, évidemment. Est-ce qu'on va retrouver Burger Quiz, que vous avez la chance de...
Mais j'adorerais, j'attends. J'attends Alain, je suis là dans mon canapé. J'attends le coup de fil pour aller jouer. Et pour aller reperdre.
Voilà. Avec Alain Chabat, évidemment, qui présente une des nouvelles saisons de Burger Quiz. 10h54, c'est l'heure des stories de Marc-Antoine Lebray. Tous les jours, il y a des célébrités qui viennent dans Culture Média pour rencontrer notre invitée Marina Foïs. Et ce matin, c'est Jeff Tuche qui met le paquet pour vous séduire. Bonjour.
Moi aussi, je suis en roue libre, dans ma voiture, en Nevada. J'étais en Nevada, dans l'Amérique. J'étais en Amérique, t'as Los Angeles. J'étais à Los Angeles, t'as Hollywood. Et si t'as Hollywood, t'as les chewing-gums. Et si t'as les chewing-gums, t'as les bulles. Si t'as les bulles, t'as de l'eau. Et si t'as de l'eau, t'as la marine. Et si t'as la marine, t'as Marina. Donc si t'as la Nevada, t'as Marina, faut réfléchir.
Une figure, justement, on en parlait du Burger Quiz, est avec nous. C'est pas Alain Chabat, c'est Manu Payet. Salut.
Ouais, salut. C'est Manos, le roi des dos. Oh putain, excusez-moi, je suis claqué là quand on m'a proposé d'animer une matinale, tu vois, j'avais pas compris que c'était le 6-9, c'était le matin, tu vois, au théâtre. Non, au théâtre, la matinale, c'est à 15h. Bon, déjà, il y a un quiproquo dans le dos, tu vois. Bon, Marina, pour le kiff, on se fait un petit burger quiz, ok?
Ok.
Donc, Marina, Marine Land, ou les deux, ok? Qui a dit...
Marina.
Non, c'est les deux. Eh ouais, parce que Marina, vous avez joué dans le film...
Ouais.
Et à Marine Land, il y a une otarie, quand elle est vénère, elle fait...
Non. Ouais. Non, mais attendez, il a raison. Et moi, j'ai perdu, okay. Donc voilà. Là, tout va bien. Voilà. Tout est dans l'ordre.
Donc là, on est d'accord. Alors, deuxième dose, elle a plongé dans le grand bain.
Les deux?
Ouais.
Ouais. C'est... Ah merde, j'ai gagné.
Ouais, non, mais c'est pas grave, on s'en fout, il n'y a rien à gagner. De toute façon, donc Marina a joué dans le film de Gilles Lelouch, okay, le grand bain. Et Cacahuète, l'orque de Marine Land, nage dans le grand bain. T'as compris, c'est bon le dos?
Ouais.
Ok, d'accord. J'explique quand même pour Philippe qui est là. Donc, j'ai plus de dos, je suis crevos. Donc là, je passe la main à mon potos Fabrice Eboué.
Ouais, salut Marina. Alors, excuse-moi, je veux dire, prochaine question. Ouais, super, ok. Merci beaucoup, j'irai de la pire. Donc, fissure anale et summer body, comment concilier les deux? Ah merde, je me suis gouré, c'est le teaser de l'émission de Gomez et Vignali qui est juste après.
Tellement. Merci beaucoup Marc-Antoine Lebray, merci beaucoup Marina Foïs d'avoir été avec nous en 7h et vivement l'année du requin. Nous on se retrouve demain à 9h pour Culture Média, nous serons avec les journalistes sportives Julien Ménard, sportif mais sportive aussi vous allez comprendre, Julien Ménard et Marine Marc, pourquoi ? C'est l'Euro féminin qui démarre, ils vont commenter les matchs sur TF1 et puis deux membres du groupe pop toulousain Cats on Trees pour leur troisième album. Et puis juste après le flash, c'est Mélanie Gomez qui est toute seule aujourd'hui. Mélanie,
et oui,
bien fait pour vous, le brame du jour.
Vous inquiétez pas, Julia sera de retour demain, elle a dû s'absenter. Alors aujourd'hui, on va voir quels sont les secrets des génies. J'entends par là les Léonard de Vinci, Einstein ou même Marie Curie. Ces génies nous ont toujours fascinés, mais qu'est-ce qu'il y a vraiment dans leur tête, dans leur esprit brillant?
Il y a quoi dans votre tête, Marina Foïs?
Ah, vous me mettez dans la classe de Léonard de Vinci? Alors merci, alors vraiment. j'ai bien fait de venir.
J'ai dit à des gens, il y a deux jours, j'ai dit, il y a Marina Foïs qui vient, et on m'a dit, mais c'est un génie.
Eh ben voilà, on parlera aussi de Marina Foïs, si vous êtes d'accord, évidemment. Et puis dans la
ne
séquence...
Ne vous gênez surtout
pas de problème. Et dans la séquence tendance, on fera un petit point déco sur comment bien utiliser, bien employer les plantes vertes dans nos intérieurs. Voilà, vous avez vu, c'est Camoulox, comme d'habitude. Et il y aura un petit peu de gazpacho également, une bonne recette de gazpacho à la fin de l'émission. Ça, c'est pas mal. Ça hein.
Et pas de fissure anale.
Pas de fissure anale aujourd'hui, ça sera pour un autre jour.
Bonne journée à l'écoute d'Europe 1, à demain 9h. Salut.
Au revoir.